Le texte de la prédication d'aujourd'hui est dans l'évangile de Luc, au chapitre 9, les versets 51 à 62. Une partie de ces versets ont déjà été lus jeudi soir lors de l'étude biblique. Nous allons les relire ensemble et je vais commencer par vous lire ce passage. Donc dans la version de la Bible du Semeur, Luc au chapitre 9, les versets 51 à 62. Lorsque le temps approcha où Jésus devait être enlevé de ce monde, il décida de manière résolue de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui quelques messagers. En cours de route, ils entrèrent dans un village de la Samarie pour lui préparer un logement. Mais les Samaritains lui refusèrent l'hospitalité parce qu'il se rendait à Jérusalem. En voyant cela, ses disciples Jacques et Jean s'écrièrent : « Seigneur, veux-tu que nous commandions à la foudre de tomber du ciel sur ces gens-là pour les réduire en cendres ?» Mais Jésus, se tournant vers eux, les reprit sévèrement. « Vous ne savez pas quel esprit vous inspire de telles pensées. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour faire mourir les hommes, mais pour les sauver. » Ils se rendirent alors dans un autre village. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme vint dire à Jésus « « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit à lui où prendre du repos. » Jésus dit à un autre, « Suis-moi. » Mais cet homme lui dit, « Seigneur, permets que j'aille d'abord enterrer mon père. » Jésus lui répondit, « Laisse aux morts le soin d'enterrer leurs morts. Quant à toi, va proclamer le règne de Dieu. » Un autre encore lui dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'abord de faire mes adieux à ma famille. » Jésus lui répondit, « Celui qui regarde derrière lui au moment où il se met à labourer avec sa charrue n'est pas prêt pour le règne de Dieu. » Ce passage de l'évangile de Luc est le début d'une grande section du livre de Luc, de l'évangile de Luc, qui va du chapitre 9, verset 51, jusqu'au chapitre 19. Et on pourrait intituler cette section « La montée vers Jérusalem ». Et on peut entendre ce mot « montée » dans plusieurs sens différents d'ailleurs. Celui de l'altitude, car Jérusalem n'est pas dans une plaine, et on dit donc « monter à Jérusalem », même si on vient du nord, de la Galilée, comme c'est le cas de Jésus et ses disciples. Mais aussi « monter vers Jérusalem » dans le sens que à Jérusalem va être le moment, le point culminant du ministère terrestre de Jésus. Et Luc accorde une place importante à cette section dans son évangile, car c'est pour lui le cœur du plan de Dieu, cette montée vers Jérusalem. C'est à Jérusalem que le salut sera accompli par Jésus-Christ. Et cette montée à Jérusalem prépare la croix, l'événement de la croix. L'événement de la croix qui n'est pas un accident. Jésus savait qu'il devait mourir à Jérusalem. Il le dit d'ailleurs en Luc 13, versets 31-33, quand des pharisiens conseillent à Jésus de quitter la région, car Hérode voulait le faire mourir, il leur répond qu'il faut qu'il poursuive sa route, car un prophète ne doit pas mourir hors de Jérusalem. À plusieurs reprises aussi dans l'évangile de Luc, je ne sais pas si vous êtes déjà aperçu en lisant cet évangile, on retrouve une petite expression très très courte, « il faut ». Je ne sais pas si vous l'avez déjà lu, alors il paraît qu'il ne faut pas dire « il faut »,« il y a qu'à », etc. Mais là, dans cet évangile, on trouve cette expression, hein, alors en grec, c'est un tout petit mot de trois lettres, « dei », « il faut ». Il faut qu'un prophète meure à Jérusalem. Alors cette expression n'est pas fataliste, comme on pourrait dire « il faut bien que cela arrive ». Au contraire, chez Luc, ce mot a une signification tout à fait intéressante. Il indique que Dieu a prévu quelque chose d'important dans son plan. Que le plan de Dieu s'accomplit. et qu'il s'accomplit d'ailleurs nécessairement et que rien n'échappe à Dieu. Il faut que le plan de Dieu s'accomplisse. Et il est utile d'avoir cette pensée en filigrane lorsqu'on lit l'évangile de Luc, et particulièrement cette section aussi de la montée vers Jérusalem. La première partie de notre texte, les versets 51 à 56. Le verset 51 marque une transition entre le ministère de Jésus en Galilée, qui a débuté en Luc au chapitre 4 avec la prédication de Jésus dans cette synagogue de Nazareth. Vous connaissez cet épisode incroyable où Jésus est là dans la synagogue, il ouvre le rouleau du temple, dans le temple, et puis il lit un chapitre du livre d'Ésaïe, et il referme le rouleau et il dit: aujourd'hui cette parole est accomplie, je suis là devant vous, etc. Il y a les regards qui se tournent vers lui, etc. Un passage tout à fait intéressant. Le ministère de Jésus a donc débuté en Galilée, dans cette région pas spécialement connue de l'époque. Mais à un moment donné de ce ministère, Jésus prend la résolution de se rendre à Jérusalem. Il décide de manière résolue, d'après la traduction que je vous ai lue dans la Bible du Semeur, littéralement, si vous avez des Bibles second, par exemple, vous pouvez lire cette expression: il durcit sa face, il fait un acte de volonté forte pour aller vers Jérusalem. C'est une étape douloureuse de la vie de Jésus. Jésus doit... Oui, peut-être on pourrait dire se faire violence quelque part, durcir sa face, faire un effort, car il sait ce qui l'attend à Jérusalem quelques jours après son arrivée. Le chemin vers Jérusalem n'est de loin pas un chemin de gloire, comme peut-être certains juifs attendaient le Messie, un libérateur politique. Jésus ne marche pas vers Jérusalem du tout dans cette intention-là. C'est plutôt un chemin de souffrance que nous découvrons, beaucoup plus proche de la figure du serviteur souffrant, du prophète Ésaïe. Jésus n'est pas venu pour conquérir un territoire géographique et du coup il se rendrait à la capitale pour annoncer son règne définitif et politique, mais il est venu pour racheter un peuple de disciples, pour appeler des personnes à sa suite, des personnes de toutes les nations. Et les difficultés ne tardent pas à arriver. À peine Jésus a-t-il décidé de faire route vers la capitale qu'il rencontre déjà un obstacle. Il devait traverser la Samarie. Les Samaritains étaient ennemis des Juifs et ils lui refusent l'hospitalité. Ce qui entraîne chez ses disciples une réaction de haine envers ces Samaritains, jusqu'à même souhaiter leur mort. Veux-tu qu'on demande que le feu du ciel descende sur ces Samaritains et les réduise en cendres? Mais Jésus les reprend sévèrement. Il n'est pas venu pour faire mourir, mais pour mourir lui-même afin de nous sauver. Alors, dans ce verset, par honnêteté simplement, je le dis, le contenu exact de la réponse de Jésus n'est pas attesté dans tous les manuscrits, mais ce dont on est sûr, c'est que Jésus répond sévèrement à ses disciples. Dans certaines traductions, on peut même lire « il les menace ». Le contenu de la menace n'étant pas nécessairement explicité. Mais la réponse de Jésus est presque évidente. Il n'est pas venu pour faire mourir, mais pour sauver. Il le dit ailleurs. On peut le lire dans Jean 3,16 par exemple, ou le verset qui suit: « Je ne suis pas venu pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé. » Ou alors, bien sûr, cette magnifique phrase de Jésus lorsqu'il dit « Je suis la vie ». Il est tout à fait possible que Jésus doive rappeler plusieurs fois à ses disciples quel est le sens de sa venue et de sa mission. Quelques versets juste avant d'ailleurs notre passage, en Luc 9, 43, lorsque Jésus dit à ses disciples qu'il va être livré aux mains des hommes, le texte précise que les disciples ne comprenaient pas. Et Jésus réagit du coup vivement pour reprendre, mais en même temps pour enseigner. Alors en reprenant ainsi ses disciples, Jésus ne veut pas minimiser le péché des Samaritains qui lui ont refusé l'hospitalité. Le jugement du péché reste une réalité, mais ce dernier n'est évidemment et heureusement pas systématiquement puni, comme dans le cas par exemple d'Ananias et Saphira. La Bible nous apprend que tous les hommes ont péché et sont par conséquent coupables devant Dieu, mais le salut est offert à celui qui croit. Et nous sommes maintenant dans ce temps de la patience de Dieu. Il est encore temps de se repentir pour recevoir le pardon. Et c'est précisément cette mission que Jésus est venu accomplir en faveur des êtres humains. Et ça n'aurait aucun sens à ce moment-là que Jésus prononce un jugement si terrible sur les Samaritains. Il est venu aussi pour sauver les Samaritains qui étaient ennemis des Juifs. On peut déjà tirer plusieurs leçons de cette première partie du texte. La première, c'est lorsqu'on est dans le plan de Dieu, cela ne signifie pas que tout roule comme sur des roulettes, y compris quand nos décisions nous coûtent. On pourrait croire que si je prends une décision qui me coûte pour Dieu, alors forcément j'aurai des bénédictions qui vont me récompenser et j'aurai moins de difficultés. Et là, ce qu'on voit dans ce texte, c'est que non seulement il y a quelque chose qui coûte, un engagement qui coûte, mais en plus, les difficultés ne sont pas écartées. On pourrait croire que le coût de suivre Jésus nous permet d'acheter une vie paisible et tranquille, mais il n'en est rien. Attention aux fausses promesses du genre « Si tu donnes ta vie à Jésus, tu seras délivré de tous tes problèmes. » C'est vrai, mais pas tout de suite. La Bible nous invite à être beaucoup plus prudents que cela. Le disciple n'est pas plus grand que son maître. Si Jésus, le Seigneur, a rencontré des difficultés, nous en rencontrerons aussi. Mais face à ces difficultés, face même peut-être à l'adversité, nous avons un exemple et une aide. Jésus fait preuve de courage, et ce courage, il veut aussi nous l'apprendre. Il est avec ses disciples. Il a promis d'être présent avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, et sa présence est une présence active. Jésus nous aide vraiment dans notre vie dès maintenant à supporter les difficultés. C'est lui qui nous porte dans les moments les plus difficiles et les plus sombres. Ce texte nous montre aussi que Jésus reprend ses disciples. Il les reprend sans les rejeter. Jésus est un bon maître. Il veut nous apprendre à aimer nos ennemis. Apprendre à aimer ses ennemis est sans doute un des apprentissages les plus douloureux, et dans cet apprentissage, nous sommes repris plusieurs fois. Jésus nous reprend, mais sans jamais nous rejeter. Et autre point encore d'application que nous pourrions souligner, l'obéissance de Jésus. Jésus sait ce que son Père attend de lui et il lui obéit avec détermination. Par l'annonce de l'Évangile, il accomplit le plan de Dieu. En Luc 4, verset 43, on peut lire que Jésus doit répandre l'Évangile, et je cite, « Il faut, et là on retrouve ce « il faut » chez Luc, hein, « il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » cette obéissance au plan de Dieu, cette obéissance, modèle d'obéissance que nous avons en Jésus, modèle d'obéissance parfait. Nous avons chanté que Jésus est notre ami fidèle et tendre, et c'est une réalité, c'est vrai. Mais il y a une petite différence par rapport à tous les amis que nous pouvons avoir, c'est que Jésus, lui, il a toujours raison. Hein, dans notre amitié avec l'un ou l'autre, des fois on a raison, et des fois on a tort, et l'autre a raison. Mais avec Jésus, là, il y a une petite différence quand même. C'est notre ami, mais c'est aussi le maître, et il a toujours raison. Passons maintenant à la suite du texte. Les versets 57 à 62, alors que Jésus et ses disciples étaient en chemin, ils vont rencontrer trois hommes. Le récit à chaque fois est très bref, hein, du dialogue de Jésus avec ces trois hommes, mais néanmoins très intéressant. Et je voudrais simplement replacer aussi ce passage dans le contexte de l'époque. Ce qu'il faut savoir, au temps de Jésus, il y avait de nombreux rabbis itinérants, essentiellement d'ailleurs des pharisiens. Les pharisiens étaient missionnaires et ils, pour accomplir leur mission, répandre leur enseignement, ils parcouraient les terres d'Israël et étaient suivis justement par des disciples qui, en écoutant certains maîtres enseigner la loi, étaient frappés, intéressés et du coup faisaient le choix de suivre ses enseignants itinérants. Jésus n'était pas le seul enseignant de Palestine qui était suivi de disciples. Jésus a trouvé pertinent ce modèle missionnaire et l'a adopté, un modèle missionnaire qui existait déjà avant son propre ministère. La maison de Pierre, d'ailleurs, à Capernaum, était le camp de base à partir duquel Jésus, avec ses disciples, parcourait la Galilée pour enseigner les foules. Dans le Sermon sur la montagne, d'ailleurs, il y a cette petite expression « Vous avez entendu dire, mais moi je vous dis. » Hein, vous avez entendu dire, hein, vous n'avez pas, vous avez lu, etc. L'enseignement était essentiellement oral, porté par ceux qui savaient lire, en fait, la Torah et qui pouvaient l'enseigner. Les foules entendaient dire beaucoup de choses de la part de tous ces rabbis itinérants. Et Jésus dit, mais moi je vous dis, ce qui nous indique que d'autres idées pouvaient circuler, ces idées qui étaient très probablement enfermées dans l'ancienne alliance, ces rabbis itinérants qui enseignaient la loi, ou du moins une certaine interprétation de la loi. Et certaines figures ont marqué l'histoire, comme les rabbis Shammai ou Hillel, qui ont laissé quelques écrits dans le Talmud, des commentaires de l'Ancien Testament et des traditions juives. Jésus prend donc part aux discussions théologiques de son temps et se positionne clairement par son enseignement et apporte une nouveauté décisive. Il était relativement courant, justement, qu'en entendant du coup un enseignant, on se mette à le suivre. C'était cela que voulait dire « devenir disciple ». Mais le passage auquel nous avons affaire ce matin souligne une différence de taille. Là où la plupart du temps les disciples choisissaient leur maître, Jésus lui renverse un petit peu les choses et c'est lui qui choisit ses disciples. Et là, ce n'est pas anodin, cette petite différence. C'est Jésus qui choisit ses disciples. Et on a le cas de deux personnes justement qui veulent suivre Jésus, hein, versets 57-58 et puis 61-62. Et le verbe « suivre » d'ailleurs est souvent répété dans ce passage, au moins trois fois, parce qu'il s'agissait vraiment de suivre, c'est-à-dire de marcher derrière Jésus. Lorsque les disciples disaient « on veut te suivre », on veut faire partie du groupe des disciples qui t'accompagnent dans tes voyages. Le premier homme affirme vouloir suivre Jésus partout où il ira. Et la réponse de Jésus l'a probablement découragé. De manière très pratique, Jésus l'informe que le Fils de l'homme, et les disciples qui l'accompagnaient. Le Fils de l'homme n'a pas d'endroit pour dormir, tout simplement. Je n'ai pas d'endroit où reposer ma tête, je n'ai pas d'endroit où je peux prendre du repos, je n'ai pas d'endroit où je peux me poser pour dormir. Es-tu sûr que tu veux me suivre ? Si tu me suis, peut-être que tu seras amené à dormir dehors, par terre. Es-tu prêt à cela ? Jésus fait sans doute allusion, hein, quelques versets plus tôt, au refus de l'hospitalité qu'il a dû essuyer de la part des Samaritains quelques versets plus haut. Et l'image employée est forte. Hein. Si tu veux me suivre, tu dormiras moins bien que les animaux. Alors que les animaux ont un habitat adapté à leurs besoins, les renards ont des tanières et les oiseaux ont des nids, si tu veux me suivre, sache que moi, en tout cas, alors que je suis le Fils de l'homme, dit Jésus, c'est-à-dire Dieu incarné quand même, eh bien, je n'ai pas d'endroit où reposer ma tête. Jésus, d'ailleurs, utilise ce titre, le Fils de l'homme, pour se désigner lui-même, qui renvoie à sa divinité. C'est un titre qui est inspiré d'un verset du livre de Daniel, où il est question que le Fils de l'homme vient sur les nuées, et ces nuées sont toujours signes de la présence divine. Jésus met en avant l'humilité qui caractérise sa vie et celle de ses disciples. Alors on ne sait pas, parce que le texte nous ne le dit pas, si l'homme qui a interpellé Jésus s'est rétracté en disant « Oh non, non, surtout ça je ne veux pas. Ah oui, je n'avais pas compris que si je voulais te suivre, ce serait difficile. » On ne sait pas. Mais en tout cas, les propos de Jésus ont dû calmer son orgueil. Parce qu'il affirme quand même « Je te suivrai partout où tu iras. » Mais était-il au courant de ce à quoi ses paroles l'engageaient ? Un autre homme, au verset 61, demande à Jésus de lui permettre de le suivre, mais après avoir fait ses adieux à sa famille. Cette demande nous renvoie vers un autre appel. C'est l'appel d'Élisée, en fait, en 1 Roi 19, les versets 19 à 21. Et ça vaut le coup, vraiment, ce parallèle, alors je vais vous le lire. 1 Roi 19, verset 19 à 21. Verset 19 à 21. Élie partit de là et rencontra Élisée, fils de Shaphat, qui était en train de labourer un champ avec 12 paires de bœufs. Lui-même conduisait le 12e attelage. Élie s'approcha de lui et jeta son manteau sur lui. Élisée abandonna ses bœufs, courut derrière Élie et dit « Je vais aller embrasser mon père et ma mère pour prendre congé d'eux, puis je te suivrai. » Élie lui répondit « Va et reviens à cause de ce que je t'ai fait. » Élisée quitta Élie, prit une paire de bœufs et l'offrit en sacrifice. Il se servit du bois de l'attelage pour faire cuire la viande et la distribua aux siens qui la mangèrent. Puis il se mit en route pour suivre Élie et être à son service. » On est dans une situation un petit peu qui ressemble, et là où Élie permet à Élisée de dire au revoir, en quelque sorte, à sa famille avant de suivre Élie, par contraste, dans notre passage, Jésus ne le permet pas. Et il affirme par là que son appel est plus grand encore que celui des prophètes avant lui, qu'il est plus qu'un prophète. En Matthieu 10, verset 37, Jésus affirme que celui qui aime son père et sa mère plus que lui n'est pas digne de lui. Cette prétention serait injustifiée si Jésus était un simple prophète. C'est en tant que Dieu incarné que Jésus se permet de parler avec une telle autorité. Et enfin, nous avons un troisième homme qui en fait est au milieu des deux autres, hein, dans le texte, versets 59 et 60. Jésus lui demande de le suivre cette fois-ci, mais l'homme veut d'abord enterrer son père. Alors certains commentateurs pensent que le père dont il est question est encore vivant et que l'homme demanderait à Jésus un délai important de pouvoir rester avec son père jusqu'à sa mort. Hein, permets-moi d'enterrer mon père, c'est-à-dire de vivre avec mon père qui est encore vivant jusqu'à son enterrement, jusqu'à sa mort. Donc il... Oui, je veux bien te suivre, mais en différé, pas tout de suite, dans quelques années. Une autre interprétation est aussi possible. Le deuil chez les Juifs était très important. Il y avait une cérémonie même où les ossements du défunt étaient placés dans un tombeau familial. Et cette cérémonie avait lieu un an après la mort. Donc c'était un temps très long qui pouvait se cacher derrière cette expression « enterrer mon père ». Peut-être que par sa réponse aussi, Jésus se démarque de cette tradition juive courante à son époque. Dans tous les cas, quelle que soit l'interprétation que l'on retiendrait, la réponse de Jésus au verset 60 est dure. Laisse aux morts le soin d'enterrer leurs morts. Alors, qui sont les morts? La première mention, hein, laisse aux morts le soin d'enterrer leurs morts. Une note de la Bible d'études du semeur suggère qu'il s'agit, c'est assez évident parce qu'un mort ne peut rien faire, qu'il s'agit donc de ceux qui sont morts spirituellement. Et quoi qu'il en soit, le sens encore une fois est clair, Jésus est plus qu'un simple rabbi, il exige une obéissance totale de la part de ses disciples. Les tout premiers jours de la montée de Jésus à Jérusalem nous rappellent que l'engagement du disciple doit être sans compromis. Suivre Jésus, c'est suivre le même chemin que les premiers disciples. Si nous voulons vivre en tant que disciples, nous devons renoncer à occuper la première place dans notre vie. De même que Jésus a dû décider avec courage et détermination de marcher vers Jérusalem, nous avons aussi un acte de volonté à faire. On appelle cela la conversion. Un pas de foi qui nous coûte dans la conscience de ce à quoi nous nous engageons, ce chemin vers, alors pour nous, la Jérusalem céleste. La vie du chrétien n'est pas de tout repos, il faut affronter des difficultés que nous n'aurions pas eues si nous n'avions pas fait le choix de suivre Jésus. On en aurait peut-être eu d'autres, des difficultés, mais il y a certaines difficultés qu'on n'aurait pas, il y a certaines questions qu'on ne se poserait pas, il y a certaines choses qui sont des tensions dans la vie qu'on n'aurait pas si on n'avait pas dans notre cœur le désir de suivre Jésus. Mais, bien sûr, nous ne devons pas vivre la croix de la même manière que Jésus. Nous devons porter notre croix, mais pas de la même manière que Jésus. Nous montons peut-être à Jérusalem, mais c'est finalement pour y découvrir quelqu'un d'autre qui meurt à ma place. Sinon, nous serions sur ce chemin. Et oui, la croix, c'est normalement ce que nous devrions mériter. Mais en arrivant à Jérusalem, nous découvrons stupéfaits que c'est quelqu'un d'autre qui est là, à ma place. Mourir à soi-même, c'est aussi, de façon figurative, mourir au pied de la croix, parce qu'un autre, justement, est mort à ma place. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, et qu'ils me suivent. Toute la vie est comme une marche vers Jérusalem. Tiendrons-nous bon dans cette marche? L'Écriture le promet à tous ceux qui sont disciples, ils atteindront un jour la Jérusalem céleste. Et c'est même mieux encore que ça, parce que c'est la Jérusalem céleste qui va descendre sur la terre. Et nous serons accueillis à ce moment-là dans la joie de notre Seigneur. Ça vaut le coup de suivre Jésus. Nous verrons en chair et en os un jour, celui que nous avons suivi de façon métaphorique durant toute notre vie. Et en attendant ce jour, alors que Dieu tout simplement nous aide, par son esprit, à vivre une vie authentique de disciple de Jésus-Christ, pour chacun de nous, ça voudra dire quelque chose de différent. Qu'est-ce que cette parole veut dire pour moi aujourd'hui, vivre en tant que disciple de Jésus ? À chacun de nous de demander au Seigneur ce que cela signifie, ce à quoi nous devons encore renoncer pour suivre Jésus, pour recevoir bien plus que ce à quoi nous renonçons. Amen.